Et voici que les matins débutent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ils sont effectivement nombreux à attendre aujourd'hui, Guillaume. Collégiens, lycéens, restaurateurs, vacanciers, la France est suspendue aux annonces gouvernementales pour la phase 2 du déconfinement. Annonce attendue cet après-midi à 17h.
Et puis les agriculteurs espèrent aussi que la reprise s'accélérera. Ils ont perdu en moyenne plus de la moitié de leur production ces deux derniers mois. Car il n'y avait plus d'acheteurs, vous l'entendrez.
Avoir un cancer n'augmente pas le risque d'attraper le nouveau coronavirus. L'Institut Curie le prouve après une étude portant sur 200 patients. Ces résultats dans ce journal.
Et puis nous irons en Tunisie où une étudiante est accusée d'avoir relayé un texte humoristique qui reprend la forme et le rythme du Coran. Elle risque 3 ans de prison.
Le décollage de la fusée SpaceX reporté à samedi, ce n'est que partie remise. Vous en parlerez après cette édition, Guillaume.
Eh bien oui, Clara, on va essayer de comprendre dans la question du jour qu'est-ce que ce premier vol habité pourrait conduire, en quoi représente-t-il un tournant dans la conquête spatiale. On posera la question à Xavier Pascou, il est directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
C'est donc à 17h aujourd'hui qu'Édouard Philippe présentera la deuxième étape du plan de déconfinement pour la France. Le Premier ministre devrait annoncer la levée de plusieurs restrictions imposées aux Français depuis le début de la crise sanitaire. Il répondrait en cela à de nombreuses questions qui se posent ce matin encore. Et la réponse pourrait être vaste, car le bilan sanitaire s'améliore lentement mais sûrement, Stéphane Robert.
Tout indique qu'Édouard Philippe devrait confirmer cet après-midi la seconde phase du déconfinement à compter de lundi prochain. Le nombre de patients en réanimation dans les hôpitaux continue de refluer, 1500 selon un dernier décompte hier. Le dispositif de traçage des nouvelles infections mis en place par la Sécurité sociale donne plutôt de bons résultats, avec la détection d'un nombre de cas moins important que prévu, ce qui semble indiquer que la circulation du virus a ralenti. Tout plaide donc en faveur d'un assouplissement des restrictions encore en vigueur. Alors maintenant, lesquelles? Jusqu'où faut-il aller? C'est au cours du Conseil de défense qui se réunit ce matin à l'Élysée que seront rendus les derniers arbitrages. Les bars et les restaurants vont-ils pouvoir rouvrir comme ils l'espèrent? Qu'en sera-t-il pour les collèges encore fermés, pour les lycées? De nombreux établissements scolaires se préparent à rouvrir leurs portes, mais pour quoi faire? Et dans quelles conditions pourront se dérouler les examens de fin d'année? Et puis jusqu'où la limite des 100 km pour les déplacements sera-t-elle repoussée? Toutes ces questions trouveront a priori réponse dans quelques heures. L'enjeu pour le gouvernement est de faire oublier les débuts tâtonnants et les erreurs commises au tout début, il y a 2 mois et demi. L'exécutif a désormais à cœur de montrer qu'il a repris la main, que tout se déroule à peu près comme il l'a envisagé. Ce déconfinement progressif reste cependant menacé par un retour de flamme. Édouard Philippe et Emmanuel Macron savent qu'ils ne sont pas à l'abri d'une deuxième vague épidémique. Et même si ce n'est pas le cas, l'exécutif n'est pas tiré d'affaire pour autant, car la France n'échappera pas à une crise économique qui s'annonce majeure et dont on entrevoit pour le moment que les prémices.
Une crise économique liée en effet à la fermeture de nombreux commerces, de nombreuses entreprises et cette semaine encore des bars, cafés et restaurants. Voilà qui a fragilisé le secteur touristique évidemment, mais également l'agriculture française, Anne-Laure Chouin.
La fermeture des restaurants et des lieux de restauration collective a drastiquement réduit les débouchés des agriculteurs, de même que l'arrêt des exportations, à quelques exceptions près. La reprise de l'activité en Chine a ainsi fait reprendre quelques couleurs aux exportations de porc. Mais dans certaines filières, les baisses de chiffre d'affaires sont dramatiques, moins 80% sur 2 mois pour la filière fleurs qui a dû demander des aides à la destruction de sa production. La viticulture a beaucoup souffert également, qui écoulait ses produits notamment en restauration et à l'exportation, une filière déjà fragilisée par la hausse des tarifs douaniers américains. Les produits laitiers et en particulier les fromages sous signe de qualité type IGP ou AOP ont vu leur vente reculer avec des pertes de chiffre d'affaires estimées à 60%. Les Français ont boudé les fromages à la coupe et la restauration a stoppé ses commandes. Quant aux fruits et légumes, la consommation en circuit court ou en drive fermier n'aura pas suffi à éponger les pertes et le manque de main-d'œuvre étrangère, l'appel aux bonnes volontés françaises n'ayant pas donné les résultats espérés, a également mis en difficulté la filière. Un secteur a résisté, le blé, poussé par une forte demande intérieure et extérieure, notamment vers l'Algérie. Des solutions de court terme ont été trouvées pour ces filières, aide en trésorerie notamment, mais d'autres crises sont attendues, dans le secteur laitier et bovin notamment, avec une incertitude. Le pouvoir d'achat des consommateurs dans les mois qui viennent, suffira-t-il à redonner des couleurs à l'agriculture française? Pas sûr.
Un pouvoir d'achat plus ou moins performant en fonction du déconfinement. Mesure attendue, je vous le rappelle, à 17h cet après-midi, avec a priori une grande partie du pays passée en vert. Les hôtels, cafés, restaurants en zone verte pourraient alors rouvrir, tout comme les parcs et jardins avec certaines règles sanitaires. La question se pose également pour les lycées et pour la limite des 100 km maintenue ou non pour les déplacements. Voilà encore de quoi participer à la relance économique. Un plan européen de 750 milliards d'euros. Il a été annoncé hier. L'Italie et l'Espagne seront prioritaires pour en bénéficier. La France est quatrième sur la liste des pays les plus touchés par la pandémie. Ce plan de relance européen, toutefois, n'efface pas les rivalités entre les pays, chacun bataillant pour conserver son attractivité. La France était l'année dernière premier pays européen pour les investissements étrangers, selon le baromètre du cabinet EY. Malgré la crise, elle compte bien le rester et la France a pour cela des atouts à faire valoir. C'est ce que dit Marc Lhermitte, associé chez EY, en charge du programme Attractivité.
Deux tiers des dirigeants nous disent qu'ils vont réduire fortement leurs investissements pour les années 2020 et 2021. 15% nous disent qu'ils vont les reporter, sine die. Mais on a aussi beaucoup d'entreprises internationales qui nous disent qu'ils maintiennent leur confiance en Europe d'abord et si possible en France. Donc on n'est pas dans un vide, on est dans un monde de l'investissement qui va être fortement réduit. Mais il va falloir gagner ces quelques projets, ces projets rares, et surtout jouer la concurrence avec les pays voisins, amis, mais concurrents qui les cherchent à les attirer. Ce que nous disent les investisseurs internationaux, c'est que ce qui a fait le succès de la France ces 3-4 dernières années, autour du marché du travail, autour d'une fiscalité plus proche de la moyenne européenne, autour du crédit d'impôt recherche aussi, ce sont les bonnes recettes pour appuyer cette relance, cette reprise et cette transformation de la France sur les mois, mais aussi les années à venir. Ce qu'ils craignent, c'est que on revienne sur les engagements de réduire un tout petit peu la fiscalité sur les entreprises, que finalement la France lance des signaux de protection trop forte, de contrepartie trop importante sur leurs investissements, parce que dans d'autres pays européens, il n'aurait pas ces mêmes contreparties, ces mêmes contraintes.
C'était Marc Lhermitte, interrogé par Anne-Laure Jumet. Députés et sénateurs donnent leur accord à l'application de traçage Stop Covid. Elle pourra être déployée dès ce week-end, comme le souhaitait le gouvernement, et cela malgré une forte opposition qui craint un fichage et un contrôle numérique des utilisateurs. Une application pour éviter, pour prévenir donc les contaminations. Alors que le nombre de patients liés à la Covid-19 baisse toujours, nous vous le disions en début de journée, les études à propos du nouveau coronavirus se multiplient au fil du temps et des recherches. Ainsi, l'Institut Curie a pu démontrer que le cancer ne semble pas augmenter le risque d'attraper le virus, pas même celui d'avoir une forme grave de la maladie. Et c'est rassurant, Aurélie Kiefer.
On a d'abord eu très peur pour les patients atteints de cancer. On pensait qu'un système immunitaire affaibli ou une tumeur thoracique allait entraîner une surmortalité en cas d'infection au coronavirus. Mais non, il n'y a manifestement pas plus de cas Covid-19 chez les patients atteints de cancer que dans la population générale. Il n'y a pas de tableau clinique atypique et la mortalité induite par le virus ne semble pas supérieure à la moyenne, du moins d'après ses premiers résultats. Ce qui entraîne la surmortalité, constate Vincent Servois, radiologue à l'Institut Curie, ce n'est pas le cancer, ce sont les caractéristiques de l'infection elle-même, de la pneumopathie.
On a utilisé un logiciel qui permet de quantifier précisément le pourcentage d'atteinte pulmonaire. La chose finalement à laquelle on s'attendait pas, c'est que le pourcentage d'atteinte pulmonaire qui entraîne le décès est relativement faible, c'est-à-dire qu'on a trouvé un seuil d'atteinte qui est de l'ordre de 30%. Nous, radiologues, nous serions plutôt partisans de réaliser systématiquement, bien sûr, un scanner thoracique quand les patients présentent une symptomatologie clinique évocatrice et ou une PCR positive, et surtout d'essayer de quantifier précisément cette atteinte parce que ça peut nous donner des indicateurs sur le devenir de ces patients.
Le scanner thoracique devient donc un outil de référence pour prédire l'évolution du patient. En cas de pronostic défavorable, l'équipe médicale peut rapidement modifier les traitements ou rediriger le patient vers une structure plus adaptée.
C'était Aurélie Kiefer.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Un projet de loi du régime de Pékin est à nouveau contesté. Il concerne Hong Kong.
Oui, les délégués chinois, pour la plupart membres du Parti communiste, vont voter ce projet de loi aujourd'hui. Il prévoit notamment la création d'agences chinoises de renseignement à Hong Kong et des changements fondamentaux sur le plan judiciaire. Une commission spéciale devra ensuite adopter ce texte, mais la loi affole déjà les Hongkongais et la communauté internationale. Les États-Unis estiment ainsi qu'elle nuit à l'autonomie de la péninsule et que Hong Kong ne peut plus prétendre à un statut spécial de la part des États-Unis. Nous reviendrons sur cette loi dans la revue de presse internationale de Camille Magnard à 7h33 tout à l'heure sur France Culture. Avant cela, prenons la direction de la Tunisie où une étudiante est accusée d'atteinte au sacré. L'État tunisien n'apprécie pas qu'elle ait relayé sur Facebook un texte humoristique pour inciter les internautes à se laver les mains pour éviter la Covid-19. Un texte qui reprend en fait la forme et le rythme du Coran. La jeune femme de 28 ans risque jusqu'à 3 ans de prison lors d'un procès qui doit s'ouvrir aujourd'hui et qui divise la Tunisie, Maureen Mercier.
La vie d'Emna Charghi a basculé début mai. Ce texte relayé sur les réseaux sociaux lui vaut non seulement une convocation au tribunal, mais aussi des menaces de mort et de viol. L'affaire divise, elle illustre cette Tunisie post-révolution tiraillée entre progressisme et ultra-conservatisme. Kaola Ksissi, juriste très active dans la société civile, est atterrée.
Elle s'est juste exprimée dans le cadre de la liberté d'expression. Ça pourrait être moi ou n'importe quelle personne dans mon entourage. Et ça me fait peur, c'est vraiment très inquiétant. De l'autre côté, je trouve que c'est une occasion pour se rassembler et pour dire que non, on ne va pas accepter cette oppression et on a le droit de vivre avec vous, voilà.
Vous, sous-entendu les islamistes, cette oppression, lui aussi la combat. Badri El-Madani est docteur en sciences islamiques, imam, il prône un islam ouvert. Pour lui, pas de doute, les islamistes sont ceux qui s'acharnent contre la jeune femme.
Ça reste toujours les islamistes. Pour montrer qu'ils sont là, qu'ils ont le pouvoir. Oui, c'est une sorte d'intimidation. Oui, ça, c'est, je le confirme.
Des islamistes qui montrent là leur capacité de nuisance. La constitution adoptée après la révolution de 2011 garantit autant le respect de la religion, en l'occurrence l'islam, reconnu religion d'État, que la liberté d'expression. À la justice de déterminer maintenant de quel côté doit pencher la balance.
C'était Maureen Mercier depuis Tunis pour France Culture. Le temps en France métropolitaine, c'est assez simple. Il y aura du soleil pour tout le monde ce jeudi, avec ce matin 20 degrés à Paris et à Besançon, 22 à Rennes et Lyon, 23 à Marseille, 24 ce matin à Bordeaux-Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal.